Ce soir, nous recevons le philosophe Claude Lefort. Claude Lefort est né le 21 avril 1924 à Paris. Il est docteur ès lettres et sciences humaines, agrégé de philosophie. Il est professeur à l'EHESS depuis, et je mentionnerai également ses publications qui sont très nombreuses. Donc, il est l'auteur de Les formes de l'histoire, paru en 1978, Éléments d'une critique de la bureaucratie, paru en 1979, Mai 68, De Point à la brèche, qu'il a écrit en collaboration avec Edgar Morin et Cornelius Castoriadis, paru au Seuil en 1968 et réédité en 1988, Le travail de l'œuvre de Machiavel, paru chez Gallimard en 1976 et réédité en 1986, Un homme en trop, essai sur l'archipel Goulag, paru au Seuil en 1976 et réédité en 1986, Les formes de l'histoire, paru en 1978, Sur une colonne absente, écrit autour de Merleau-Ponty, paru chez Gallimard en 1978, L'invention démocratique, paru chez Fayard en 1981 et réédité en 1989, Essai sur le politique, paru au Seuil en 1986, Écrire, paru chez Kalman Levy en 1992, et son dernier ouvrage, La complication, paru en 1999 chez Fayard. Claude Lefort, donc, je vous laisse la parole pour une cinquantaine de minutes. Je vous remercie.
Je vous remercie, Monsieur Leroux, de cette présentation. Et je remercie Yves Michaud, les animateurs de cette rencontre, de me donner l'occasion de m'entretenir avec vous. Dans cette université de tous les savoirs, il semble que vienne naturellement prendre place une étude du pouvoir. Je suis de plus en plus conscient de ce qu'il y avait de téméraire à la prendre en charge. Il n'est pas en effet de discipline scientifique dont l'objet spécifique soit la nature, l'origine et l'exercice du pouvoir, bien que ce phénomène ait suscité l'attention et la réflexion de grands esprits. Je doute d'ailleurs qu'une telle discipline ait quelque chance de se former pour des raisons qui apparaîtront au cours de ce bref exposé. Rien, en tout cas, ne permet de croire que nous puissions bénéficier des acquis d'un savoir cumulatif. Qu'appelle-t-on pouvoir ? Question préalable, semble-t-il. Mais pour répondre, il faudrait énoncer un critère qui permette aussitôt de trancher un nœud de représentation dont chacune porte la marque d'une expérience collective. Si l'on veut bien admettre que le pouvoir ne peut se réduire à la domination, à la puissance, au commandement, à l'autorité, ce n'est pas toutefois sans raison qu'on reconnaît le pouvoir au signe de la capacité de décider des affaires publiques, à celle de disposer des moyens de coercition ou à celle de commander, à celle d'incarner, de représenter quelque puissance au-dessus des hommes ou bien d'en participer, à celle de posséder un savoir-faire qui échappe à l'intelligence commune. Bref, il peut être associé à l'image du prince, du gouvernant, du guerrier, du prêtre ou du magicien. Dans tous les cas, le caractère du pouvoir est lié au caractère de l'obéissance, et l'obéissance elle-même implique un certain mode de croyance. D'une domination établie par la force, on peut même se demander, comme nous y invitait Étienne de la Boétie, si elle a jamais pu s'entretenir, durer, sans bénéficier d'une servitude volontaire. Ce n'est pas par une définition de mots que nous nous délivrerons de la question que pose la nature du pouvoir. À vrai dire, chacun d'entre nous dispose d'une sorte de précompréhension du phénomène, en raison de l'expérience, de l'obéissance et de la dépendance qu'il a faite dans son enfance avant de former quelque idée de sa source. Nul besoin d'épouser la théorie platonicienne de l'âme pour admettre que la vie psychique et la vie sociale ne sont pas étrangères l'une à l'autre. La précompréhension guide nos réserves à l'égard d'interprétations qui semblent pourtant reposer sur des évidences. Ainsi, a-t-on proposé de concevoir le pouvoir en termes de relations entre des individus ? Il se définirait comme la capacité dont dispose un sujet A pour amener un sujet B à agir conformément à son dessein. Une fois admis que tout sujet dispose d'un quantum de pouvoir, la tâche de l'analyste consisterait à découvrir la répartition des relations de pouvoir qui s'opèrent et éventuellement se modifient à la faveur de coalitions entre des agents visant à une même fin. Cette fin pouvant être la direction d'un secteur d'un groupement donné ou la direction du groupement lui-même. Un schéma de ce genre rompt pourtant avec le sens commun. Il suppose qu'on puisse abstraire l'individu ou l'action interindividuelle de tout contexte particulier, qu'on puisse écarter toute considération sur la nature des mobiles et des fins de l'action. Ainsi, prive-t-on de signification la relation de domination, de commandement et d'autorité. Plus proche du sens commun est l'idée que le pouvoir est un des mobiles du comportement humain, qu'il excite naturellement un appétit sans limite, et qu'une fois en position de l'exercer, chacun s'emploie à le conserver ou à l'accroître s'il ne rencontre pas d'obstacle. Représentation qu'accompagne souvent celle d'un pouvoir qui corrompt, puisqu'il ferait naître en celui qui le détient l'assurance d'être au-dessus des lois. Sous cette perspective, le pouvoir se confond avec la puissance. Toutefois, le recours à l'idée d'une nature humaine dispense de l'observation des faits. Le comportement des hommes est largement façonné par le milieu dans lequel il vit, par son éducation et surtout par les mœurs d'une société qui valorise ou qui dévalorise tel ou tel principe d'action. J'en donnerai dans un moment un exemple. Le pouvoir, je viens de le dire, n'est pas l'objet spécifique d'une discipline scientifique, mais n'est-ce pas pourtant celui de la science politique ? Cette science, tard venue dans le champ des sciences humaines, fait large place, comme le montrent les travaux qui s'en réclament, à des enquêtes empiriques sur la sélection des dirigeants politiques, le fonctionnement des partis, le caractère de leur clientèle, ou bien le fonctionnement des organes d'État, les mécanismes de la décision politique, etc. Autant dire que c'est l'investigation d'un secteur particulier d'activité, tel qu'il se repère dans la société démocratique moderne, qui occupe la science politique. On a pu mesurer les erreurs qu'elle commettait souvent quand elle appliquait ses schémas à une société de type totalitaire dans laquelle, précisément, la distinction de ce qui est et de ce qui n'est pas politique se trouve effacée. Cette distinction donne à la science l'assurance de son objet à distance de l'économique, du social, du juridique, etc. Quand la science politique s'élève à la théorie, elle conçoit le pouvoir soit en référence à l'action des individus en termes de stratégie rationnelle, ou bien en référence à une logique des fonctions ou des systèmes. C'est encore la notion conventionnelle d'un secteur de la politique bien particulier qui la guide. Or, la délimitation de la politique n'est pas une donnée naturelle ou rationnelle. Elle porte la marque d'un régime très particulier et, à vrai dire, sans précédent. En ce sens, elle a déjà une portée, une signification politique dans la mesure où elle commande l'expérience de la vie sociale et une expérience du monde. Je me propose de faire une brève incursion dans le champ des sociétés politiques. Le pouvoir s'y présente comme une institution. Il est identifiable à ce signe que tous les membres d'un groupement peuvent le nommer. À mieux dire, il est cette institution qui donne à un ensemble social son caractère de groupement politique. En outre, il a cette propriété remarquable d'être toujours ostensible. Bien que de manière différente, il requiert un cérémonial, une étiquette, cela qu'il se manifeste sous les traits d'un personnage ou bien d'une assemblée dont la souveraineté se pare d'emblèmes qui signalent, soulignent son éminence. L'éthique de la familiarité démocratique n'a pas aboli de nos jours l'impératif de la mise en scène de l'apparition du président Chirac ou du président Clinton, pour ne pas même évoquer les fastes de la royauté britannique. Assurément, il faut se demander ce que recouvre le nom ou l'image de l'institution de son représentant, chef, roi, empereur, premier magistrat de la cité. Mais ne négligeons pas ce trait sur lequel je reviendrai. Comment s'interroger sur le pouvoir tant qu'on ne le saisit pas dans le cadre de sociétés d'espèces différentes? L'artifice de la science politique moderne, qui prétend circonscrire le politique à l'intérieur de l'espace social comme un secteur particulier parmi d'autres et en décrire les propriétés, l'artifice consiste à se donner en sous-main l'expérience première que nous avons de cet espace pour feindre de le reconstruire à partir de supposés éléments. Ainsi forge-t-elle la fiction de rapports sociaux qui préexisteraient à toute mise en forme, toute mise en sens et toute mise en scène. La question que pose le phénomène du pouvoir nous renvoie en effet à celle que pose l'institution du social. Cette dernière expression, ce dernier terme, je ne le prends plus dans son acception convenue, mais au sens que lui conserve la force du verbe. Notion d'institution à la lettre inconcevable, puisqu'elle fait signe vers une origine du social et qu'elle barre simultanément, le chemin vers l'origine en interdisant la représentation d'un état de choses pré-social. Mais notion dont nous ne pouvons nous passer, car si loin que nous remontions dans le temps, et quelle que soit la direction de notre curiosité, tout groupement humain nous paraît porter la trace d'une élaboration, en vertu de laquelle ces divisions internes, à commencer par la plus élémentaire, la différence des sexes, font sens pour chacun de ses membres. Tout autant la fiction libérale d'individus vivant dans un état de nature que la fiction durkheimienne d'un groupe qui tirerait de son existence matérielle la représentation des êtres, de la nature et des choses font méconnaître la primauté du symbolique. Toutefois, ne traitons pas de l'ordre symbolique comme d'un système fermé. Toute société, en effet, est affrontée à la contingence de son organisation et aussi à l'exigence de l'effacer, c'est-à-dire qu'elle est toujours occupée à se donner la raison de ce qui est comme il doit être. Or, à l'admettre, ne faut-il pas reconnaître avec le pouvoir, avec l'écart qu'il manifeste, avec la dénivellation qu'il introduit dans l'espace social, un signe de l'impossibilité pour la communauté, qu'elle soit une tribu, un royaume, une cité ou une nation, l'impossibilité de coïncider avec elle-même, ou je dirais mieux, un signe de l'obligation où elle est de donner figure à une dépendance primordiale. Ainsi, la notion de pouvoir est-elle liée à celle de loi? Le mérite d'un des plus éminents inspirateurs de la sociologie, et en particulier de la science politique, Max Weber, est d'avoir mis en évidence divers modes de légitimité du pouvoir dans le souci de ne pas le confondre justement avec la puissance. Je rappelle rapidement la distinction qu'il établit entre trois types de pouvoir. Le premier, traditionnel, est justifié par la vertu qu'on prête à sa conformité avec des coutumes dont l'ancienneté accrédite l'autorité. Le second est le pouvoir charismatique, dont l'autorité est fondée sur la grâce personnelle extraordinaire d'un individu, chef de guerre, souverain plébiscité, grand démagogue, chef d'un parti politique. Le troisième s'impose en vertu de la légalité, c'est-à-dire de la croyance à la validité d'un statut, à une compétence fondée sur des règles établies rationnellement. C'est le pouvoir qu'exerce le serviteur de l'État moderne. Weber précise, il est vrai que ces trois pouvoirs peuvent dans la réalité se combiner à des degrés divers. Cette réserve ne peut toutefois dissimuler que sa typologie est tacitement guidée par l'observation de la société, de la démocratie moderne. Celle-ci se caractérise en effet par la dévalorisation de la coutume et elle combine l'image de la rationalité de la division du travail, caractéristique de la bureaucratie d'État notamment, avec l'image d'un acteur politique toujours impliqué dans un conflit et dont les chances de succès tiennent au prestige dont il jouit. Si vive soit mon admiration pour l'œuvre de Max Weber, sa classification imperturbablement reproduite par des générations de sociologues ne me paraît pas rendre compte de la variété des formes de pouvoir. Et s'il est un concept fourre-tout, c'est bien celui de pouvoir traditionnel auquel on peut rattacher la chefferie indienne, le despotisme inca et la monarchie chrétienne. Si l'on raccorde en outre à sa typologie la définition que Weber donne du groupement politique, l'idée se confirme qu'il est prisonnier de la représentation de l'État moderne. Il écrit, comme tous les groupements politiques qui l'ont précédé, l'État consiste en un rapport de domination de l'homme sur l'homme fondé sur les moyens de la violence légitime. Une seule objection me suffit. À Athènes, le pouvoir démocratique se caractérisait par la rotation des charges publiques entre les citoyens. Le gouvernement, observait Aristote, le gouvernant, observait Aristote, apprenait à exercer l'autorité en étant lui-même gouverné. Bien sûr, la citoyenneté qui donnait accès à la participation aux décisions publiques était délimitée. Le concept même de démocratie, au demeurant inventé par les ennemis du régime, impliquait que le kratos appartenait au peuple et non au meilleur, à l'aristocratie. Il témoignait d'un conflit dans la cité. Enfin, l'institution de l'ostracisme révélait la crainte que le pouvoir ne soit ravi au peuple par un aspirant à la tyrannie. Nous avions bien là une forme de pouvoir, mais non pas un monopole de la violence légitime. Le danger déjà signalé est de construire une théorie du pouvoir, voire un schéma de son développement, tout guidé par l'observation de certains traits caractéristiques de l'État moderne. Consentons donc à nous étonner devant quelques faits qui nous dépaysent. Sur des aires distinctes, Scandinavie, Mélanésie, Polynésie, Nord-Ouest américain, au cours d'une longue durée, les hommes ont conçu leurs relations sur le mode de l'échange par don. Marcel Mauss, dans son célèbre essai sur le don, en tire un premier enseignement qui contredit les thèses des économistes classiques. Dans les sociétés dites primitives, dites abusivement primitives, il n'y a rien qui ressemble à une économie naturelle. Pas d'échange de biens entre des individus, les collectivités, les partenaires sont des collectivités. Ce ne sont pas seulement des biens, plus ou moins précieux, qui sont échangés, mais des fêtes, des politesses, des festins, des services militaires et aussi des femmes. Dans nombre de cas, les présents sont censés inciter les dieux à la générosité envers le donateur. Prestations et contre-prestations s'effectuent sous une forme ostensiblement volontaire, bien qu'elle soit au fond, comme l'observe Mauss, rigoureusement obligatoire à peine de guerre privée ou publique. Observation cruciale, dans ces sociétés, pas de relation neutre, l'autre est un allié réel ou potentiel, ou bien un ennemi. Or, ce phénomène n'a pas seulement une signification économique, c'est un phénomène social total, dit Mauss. Il est politique en ce sens qu'il est constitutif d'une forme de société. Mais il l'est aussi au sens convenu du terme, courant du terme, car il révèle un art politique, celui d'un chef qui cherche à soumettre son partenaire à l'obligation de rendre plus qu'il n'a donné, s'il ne veut pas perdre la face. Une forme exacerbée de l'échange, le potlatch, terme emprunté au langage des Indiens du Nord-Ouest américain, fait reconnaître le sens dernier de l'institution. Le potlatch est en effet l'occasion d'une consommation considérable de richesses, voire d'une destruction forcenée de biens précieux, à la faveur desquels un chef, et à travers lui un groupe, exhibe sa puissance et affirme sa suprématie. En la circonstance, une hiérarchie s'établit ou se défait. Donner, dit Mauss, c'est manifester sa supériorité, être plus haut, accepter sans rendre, c'est se subordonner, devenir client et serviteur, choir en bas. Quant au rôle du chef, à l'intérieur même de la communauté, il est principalement lié à l'organisation du rituel. Selon Maurice Ockar, l'auteur de « Rois et courtisans », l'objet de ce rituel étant non pas de préserver l'ordre de la société, mais avant tout de dispenser la vie, d'assurer la fertilité du sol et la fécondité du groupe. La fonction du roi apparaîtrait, selon cet auteur, à la faveur d'un accroissement des relations entre des communautés, en conséquence d'une concentration des rituels dont il deviendrait l'officiant indispensable. Quoi qu'il en soit, le chef, même devenu roi, ne gouverne pas. Sa tâche est de régler l'univers en fonction de sa propre régulation. Ainsi se montre-t-il souvent prisonnier d'innombrables tabous, esclave de son rang, au point de décourager les candidats à l'exercice d'une telle charge. À toutes les obligations du chef s'ajoute celle de la générosité envers ses sujets. Enfin, je relève cette hypothèse précieuse. Comme le chef n'a pas la liberté de donner des ordres à ses subordonnés immédiats, aux dignitaires qui l'entourent, il arrive que l'exercice de la puissance tombe dans leurs mains. Une telle hypothèse, comme vous l'entendez, introduit l'idée d'un dédoublement du pouvoir, pour une part magique, pour une autre part administratif, voire coercitif. L'étude des communautés indiennes d'Amérique du Sud, à laquelle s'est exclusivement attaché Pierre Clastres, l'auteur de « La société contre l'État », révèle un mode de constitution d'une très lointaine origine. Le chef n'a d'autre fonction que de dispenser la bonne parole. Le droit qui lui est reconnu de pratiquer la polygénie fait de lui un être d'exception, mais sa puissance est nulle. Au lieu de se borner au constat de l'absence d'un pouvoir coercitif, Pierre Clastres voit dans l'institution de la chefferie le signe d'un refus concerté du groupe de ce type de pouvoir séparé. La chefferie, en somme, administrerait la preuve que le pouvoir réel réside dans la communauté rassemblée. Ce tableau ne nous laisse pas cependant ignorer, premièrement, l'obligation pour la communauté de délimiter un lieu à part. Deuxièmement, la constitution d'une communauté fondée sur l'exclusion d'une partie de ses membres, ne l'oublions pas, les femmes. Troisièmement, l'existence d'une institution faite pour veiller à l'inclusion des jeunes gens par des rites d'initiation qui les soumettent à des épreuves cruelles que l'observateur décrit comme des tortures. À supposer que la loi, comme dit Clastres, enseigne à chacun, en s'imprimant sur son corps, qu'il ne peut être que l'égal des autres, on doit bien constater une véritable domination du groupe sur ses membres. Dans son célèbre vocabulaire des institutions indo-européennes, Émile Benveniste, à partir d'une minutieuse étude des racines du sanskrit, du celtique, de l'italique et du grec, nous apprend que le rex est à l'origine plus religieux que politique. Sa mission n'est pas de commander, d'exercer un pouvoir, mais de fixer des règles, de déterminer ce qui est, au sens propre, droit. La voie droite, en effet, a d'abord eu une signification toute matérielle. Elle consistait en un tracé de lignes qui marquait des frontières. À l'examen de l'Iranien, il voit naître une royauté qui n'est plus de caractère recteur, mais désigne un pouvoir absolu d'essence divine. La royauté perse achéménide viendra d'ailleurs incarner la souveraineté, le type même de la souveraineté impériale aux yeux de l'Occident. Dans sa grande enquête sur les conceptions de la royauté dans le Proche-Orient, sous le titre « Le roi et les dieux », Henri Frankfort souligne qu'un tel pouvoir, celui d'un roi-dieu en Égypte ou d'un roi mi-humain, mi-divin en Mésopotamie, n'est pas perçu comme proprement politique par ses sujets. « La vie, écrit-il, fait partie d'un vaste réseau de connexions entre les communautés locales et nationales qui s'étendent dans les profondeurs de la nature et des puissances qui la gouvernent. » Mais le despotisme ne se laisse pas reléguer dans une lointaine antiquité. Le modèle importait à Machiavel, à Montesquieu et à Marx. Pour Montesquieu, avant, surtout pour Machiavel, il était incarné par le Turc. Souvent présenté sous les traits d'un maître absolu qui soumet ses sujets à ses désirs, fussent-ils les plus extravagants, le despote intrigue par sa capacité d'utiliser une armée de serviteurs répartis sur toute l'étendue de l'Empire. Les Portugais furent les premiers, stupéfaits au spectacle des prodiges accomplis par les Incas dans l'organisation sociale, dans la mobilisation d'une main-d'œuvre de masse et l'exploitation des ressources naturelles. Mais je m'arrête un instant, car ce cas mérite particulièrement l'attention, je m'arrête au despotisme chinois, car il montre sous un jour très singulier la conjonction d'un pouvoir en théorie absolue, sacré, celui de l'empereur, fils du ciel, et d'un pouvoir essentiellement civil, exercé par des fonctionnaires recrutés sur la base d'examens littéraires. Étienne Balache, dans une série d'essais réunis sous le titre significatif de « La bureaucratie céleste », a mis en évidence la pérennité en Chine du phénomène bureaucratique au cours d'une histoire millénaire. À la base de la pyramide sociale, une immense paysannerie, au niveau intermédiaire, une couche d'artisans et de commerçants peu nombreuses, au sommet, une bureaucratie dont les membres assument toutes les fonctions d'administration et de contrôle de l'ensemble social sous l'autorité du souverain. Du ressort des fonctionnaires sont le calendrier, la réglementation des échanges. C'est pourquoi, je le dis au passage, ne réussira jamais à se dégager une véritable bourgeoisie marchande, la construction des routes, les grands travaux d'irrigation, mais aussi les rites, l'éducation, la moralité publique, l'art musical. Ce sont des managers avant la lettre, mais non pas des spécialistes, précise Balache. Ils ne connaissent que l'art de gouverner. L'État est paternaliste et autoritaire. L'historien l'appelle successivement un État-providence tentaculaire et un État totalitaire. Fait remarquable, la bureaucratie est toute puissante en tant que classe, mais ses membres ne tirent aucune indépendance ni aucune sécurité de leurs fonctions. Ils se surveillent sans cesse l'un l'autre. Reste le fait que si le despotisme chinois n'a rien de religieux, il ne connaît pas de culte organisé, il se nourrit de la croyance que l'humanité et l'univers ne forment qu'un seul règne. Qu'en est-il du pouvoir dans l'État moderne? Ne marque-t-il pas un progrès dans la domination de l'homme sur l'homme? À entendre Tocqueville, c'est d'être devenu purement social que le pouvoir a gagné sa plus grande force. Je le cite. « On n'a jamais vu dans les siècles passés de souverain si absolu et si puissant qui ait entrepris d'administrer par lui-même et sans le secours de pouvoirs secondaires toutes les parties d'un grand empire. Il n'y en eut point qui ait tenté d'assujettir indistinctement tous ses sujets au détail d'une règle uniforme, ni qui soit descendu auprès d'eux pour les régenter et les conduire. » Ce jugement lui est inspiré par le contraste que forment la société démocratique et la société aristocratique d'Ancien Régime. Dans cette dernière, les hommes étaient toujours insérés dans une communauté, pris dans des réseaux de dépendance personnelle, une longue chaîne reliait le paysan au roi. Or, ils sont devenus, sous l'effet du progrès de l'égalité des conditions, nous dit Tocqueville, des individus qui ne voient plus au-dessus d'eux que l'État ou la société, notion autrefois obscure, dit Tocqueville. Tocqueville découvre ainsi, sous le transfert de la souveraineté du monarque au peuple, la précipitation d'un processus de centralisation administrative qu'avaient inauguré autrefois les rois, d'ailleurs, soucieux qu'ils étaient d'abaisser la noblesse. L'isolement, la petitesse des individus font qu'ils attendent désormais tout de l'État. Je le cite, « Au-dessus d'eux s'élève un pouvoir immense, tutélaire. » Certes, le fait que ce pouvoir s'exerce sur des individus incite Tocqueville à juger finalement que les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. Mais le régime paraît porter la marque d'une domination extrême d'un nouveau genre. Cet argument tocquevillien connaît de nos jours un succès qui ne tient pas seulement à la découverte d'un pouvoir réglementaire et détaillé que masquerait la théorie de la démocratie. Sûrement, il est exploité par les critiques de l'État-providence, d'un État dont les interventions sont multipliées par la croissance de l'organisation sociale et de l'économie. Mais son succès, le succès de cet argument, se mesure non moins à l'usage qu'on fait, sans mentionner son origine, de la notion d'un pouvoir tutélaire, doux et détaillé, pour décrire les ruses de la domination dans les secteurs les plus divers, de celui de l'école à celui de l'entreprise notamment. Tocqueville, en effet, ne se contentait pas d'observer que le pouvoir devient le maître des affaires des citoyens, il disait déjà, ironiquement pour sa part, qu'il travaille à leur bonheur et qu'il facilite leur plaisir. Il ajoutait que ne peut-il leur ôter le trouble de penser et la peine de vivre. Toutefois, le modèle d'une nouvelle espèce de despotisme permet d'éluder la question que pose la nature du pouvoir monarchique dans l'Ancien Régime. Tocqueville n'insiste pas sur la portée symbolique de cette rupture. En fait, ce pouvoir marquait déjà une rupture avec toutes les anciennes formes de royauté sacrée. S'il en retenait quelques traits, comme Marc Bloch l'a admirablement montré dans son livre « Les rois thaumaturges », ces rois qui étaient des guérisseurs, notamment les guérisseurs des écrouelles, le roi n'était pas un symbole du tout, il était un symbole de l'un. Conservant toujours la trace de sa première prétention à figurer le Christ ou Dieu même sur la terre, il donnait avec l'image de son corps lié à son corps immortel celle d'un corps politique, la nation, et celle d'une terre sacrée dans des frontières limitées. Conjuguant une puissance spirituelle avec une puissance temporelle, il ne pouvait pourtant pas les confondre dans sa personne. À son pouvoir se heurtait celui du prêtre. Sa capacité d'incorporer la loi ne le mettait pas en mesure de s'affranchir d'une autorité suprême. De toutes les formes de société connues, la démocratie se distingue certes par l'abandon de la croyance à l'implication des rapports humains dans l'univers, mais non moins par l'abandon de la croyance à une loi divine dont le détenteur de l'autorité serait le représentant. Cela ne veut pas dire que le lieu du pouvoir ne procure plus à la nation le signe d'un dehors. Mais dès lors que ce dehors n'est pas nommable, figurable, dès lors que nul ne saurait occuper la position d'un grand médiateur et d'un grand juge, ce lieu est tacitement reconnu comme un lieu vide. L'écart du symbolique et du réel est non seulement maintenu, mais le symbolique se soustrait au figuratif. Ne nous arrêtons donc pas à l'idée d'une société, la nôtre, dans laquelle les lois seraient devenues toutes relatives aux nécessités changeantes de l'organisation sociale. Que le pouvoir n'appartienne à personne, ce n'est pas un fait acquis historiquement. C'est le produit d'une obligation inconditionnée, c'est-à-dire à défaut de laquelle le régime serait détruit. Et le dispositif juridique en vertu duquel l'exercice de l'autorité publique dépend du suffrage requiert une compétition périodiquement renouvelée entre des partis, requiert le maintien d'une opposition dans les assemblées représentatives et la garantie des lois civiles, ce dispositif ne fait que découler de cette obligation primordiale. En quoi la démocratie moderne, le pouvoir démocratique, se montre-t-elle essentiellement différente de la démocratie antique? Dans celle-ci est également affirmé le principe que le pouvoir ne saurait être approprié par quiconque. Toutefois, ce pouvoir se voyait assigné à l'Assemblée des citoyens. C'était un pouvoir communautaire et qui s'édifiait à la faveur d'un effacement de la division sociale. Phénomène que signale aussi bien le système de rotation des charges publiques que j'évoquais, l'échange de position, l'échange ostensible de position entre gouvernants et gouvernés, que le principe de l'unanimité lors des décisions prises à l'Assemblée du peuple. La démocratie athénienne connaissait le conflit social, mais elle s'employait à en désamorcer les effets. Ne confondons pas donc l'idée d'un pouvoir qui n'appartient à personne avec l'idée que j'introduis, l'idée qu'il désigne dans nos sociétés démocratiques un lieu vide. La première peut être formulée, la première idée, et se traduire en somme sous cette autre forme, le pouvoir appartient à la communauté des citoyens. L'autre, l'idée d'un lieu vide, ne peut pas être formulée, car la souveraineté du peuple étant affirmée, c'est d'une façon tacite qu'il est admis que la nation n'est pas substantiellement une, et même qu'à proprement parler, elle n'est pas réductible à une communauté, puisque l'exercice du pouvoir reste toujours dépendant du conflit politique et que le conflit politique atteste et entretient le conflit des intérêts, des croyances et des opinions à l'intérieur de la société. Pour une même raison, le pouvoir politique ne renvoie plus à un dehors qui soit assignable aux dieux ou à un ordre de l'univers, et il ne renvoie pas à un dedans, la société, qui soit tout positif. Encore dois-je préciser que là où s'indique un lieu vide, il n'y a pas de condensation possible entre le pouvoir, entre le principe du pouvoir, le principe de la loi et le principe du savoir, ni d'assurance possible de ce qu'ils signifient, de leur fondement. Le fondement est matière à débat interminable, un débat qui se reporte sur les fins de l'action politique, sur la distinction du légitime et de l'illégitime, la distinction du vrai et du faux ou du mensonger, la distinction de la domination et de la liberté, entre la domination et la liberté. La démocratie est ainsi ce régime dans lequel sont dissous les repères derniers de la certitude, mais qui n'en fait pas pour autant retomber les hommes dans la positivité de l'organisation. Sans doute, la démocratie donne-t-elle lieu au développement de pouvoirs d'appareil, notamment celui de l'État ou celui de l'entreprise, mais bien d'autres. Leur manière de s'exercer varie selon les chances qui sont offertes à l'usage de la force ou à celui de la séduction. Cet exercice, en fait, contrairement à ce qu'on dit, loin d'être à la disposition d'agents rusés du pouvoir, s'adapte largement au changement des représentations collectives. Mais tant que, malgré le discrédit dont souffrent toujours davantage ses représentants, se maintient le crédit dont bénéficie le pouvoir démocratique, lequel se manifeste, lequel rend manifeste l'excès de la vie sociale sur toute organisation de fait, les multiples appareils ne peuvent se fondre en un seul. Les aventures totalitaires nous ont appris quel attrait exerçait la domination du haut en bas de la bureaucratie dans un régime qui prétendait annuler toute manifestation de conflit et opérer une sorte de bouclage du social. À présent, c'est plutôt l'expansion du marché, supposé auto-régulateur, une expansion à l'échelle de la planète, qui porte un défi au pouvoir démocratique. Je vous remercie de votre attention.
Vous avez cité le livre Le Roi et les courtisans. À ce sujet, qui dit pouvoir domination disait auparavant courtisan et une sélection de l'information. Actuellement, dans nos pays de liberté, il y a une évolution des mentalités, il y a des nouvelles techniques de communication. Pensez-vous que les choses aient réellement évolué ?
Elles ont plus qu'évolué. Il y a une véritable rupture. J'ai dit le roi et ses courtisans, et premièrement, je voudrais mettre les choses au point. Le titre original, c'est King and His Counselors, le roi et ses conseillers. Mais comme j'ai essayé de le montrer, cette forme de royauté qui... largement une royauté magique où le roi ne gouverne pas, est essentiellement différente de ce que aujourd'hui nous pouvons constater comme exercice du pouvoir. Disons, on ne peut parler, éliminons le terme de courtisan, on ne peut parler d'un personnage central officiant d'un rituel et entouré de conseillers. De façon générale, si j'ai évoqué ces formes de société si différentes, c'est pour montrer que là où apparemment il n'y a pas de pouvoir qui gouverne, de pouvoir qui donne des ordres, néanmoins, il y a toujours délimitation d'un lieu à part. C'est tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Monsieur.
Même si vous avez parlé de l'appétit du pouvoir tout à l'heure, vous ne nous avez peut-être pas dit un mot sur le phénomène de corruption. Je voulais en savoir un tout petit peu plus. Est-ce que ce qu'on peut appeler le virus de corruption, cette contre-valeur républicaine, est-ce qu'il se trouve dans le pouvoir même ou dans ceux qui l'incarnent, qu'il exerce? Parce que, et même quelque part, si on prend l'exemple de la société française, même les citoyens commencent à montrer une certaine compréhension pour la corruption. Même les juges trouvent, on condamne toujours les gens qui ont fait de la corruption, toujours avec sursis. D'où vient ce phénomène de compréhension, ou même historiquement, où vous situez le phénomène de corruption? Est-ce que dans le pouvoir ou dans les hommes?
Oui. ce que j'ai voulu faire entendre, c'est qu'il y a, pour une part, c'est qu'il y a une fonction symbolique du pouvoir, quelle que soit la manière dont il se présente. Bon. Pour une autre part, disons, il peut y avoir un pouvoir entre les mains des hommes qui détiennent des moyens de dominer, soit par la force, soit par la séduction. Bon, je crois que, je l'ai dit au début, on ne peut pas simplement dire il est dans la nature humaine que dans la nature humaine de désirer, de convoiter le pouvoir. Cette notion de nature humaine, je l'ai tacitement mise en doute en évoquant un pouvoir qui était essentiellement lié à la générosité. Une générosité très intéressée, puisqu'il s'agissait de soumettre l'autre en le mettant dans l'impossibilité de répondre à la hauteur. Mais enfin, il s'agit de toute autre chose, comme vous le voyez, que du pouvoir, de ce pouvoir qui corrompt, de ce pouvoir qui est lié à des avantages matériels et qui est lié, disons, à tout un système de complicité et tout un système de participation à un appareil.
Une question sur le côté, oui. Là.
Ici. Monsieur Lefort. Pardon. Oui. Selon votre analyse, l'exercice du pouvoir peut-elle être un service et seulement un service ou s'accompagne-t-il nécessairement d'autres dimensions ? Et j'ai une seconde question. Quel rapport pouvoir et intention entretiennent-ils ?
Le pouvoir peut-il être seulement un service ? Je ne crois pas qu'on puisse le définir dans ces termes. Même dans une société sauvage, où finalement le pouvoir est d'une certaine manière manipulé par la communauté, parce que le chef est mis en position d'avoir à être généreux envers ses sujets. Et puis, on peut dire que le chef aussi, c'est un être d'exception, et disons qu'il a des facultés surnaturelles. Mais vous voyez bien que ça n'est pas dans le même sens qu'on peut parler de service. Le mot de service, me semble-t-il, renvoie à l'utilité, alors qu'il y a une dimension du pouvoir qui n'est pas... qui est irréductible à l'utilité. Votre seconde question, pardonnez-moi, je ne m'en souviens pas, le service, quel est le pouvoir, le rapport entre le pouvoir et l'intention ? Cette fois-ci, vous me ramenez franchement à la psychologie de l'homme qui détient le pouvoir. Si c'est le cas, je ne peux absolument pas vous répondre. Je m'intéresse au pouvoir en tant qu'il s'imprime, disons, dans une société. Bon, quelle est l'intention ? Si vous me demandez quelle est aujourd'hui l'intention de Chirac, c'est un tout autre problème. Vous parlez d'intention de la collectivité. Alors là, vous touchez quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas si on peut employer le terme d'intention, mais il est vrai qu'il y a, disons, qu'il est trop facile, peut-être que je rejoins la question concernant la corruption, qu'il est trop facile de mettre tout l'accent sur le pouvoir, disons, sa capacité d'utiliser la corruption, ou bien sa faculté, disons, de définir des buts qui soient les meilleurs, car ce pouvoir est toujours dépendant dans une société comme la nôtre d'une idéologie, des mœurs, des attentes de catégories très diverses de la population, d'ailleurs. En ce sens-là, Peut-on parler d'une intention, par exemple, peut-on parler aujourd'hui d'une intention de, dans la nation que, où nous vivons? Je n'avancerai certainement pas jusque-là.
Une question là.
On a inauguré par votre conférence une série de conférences sur le politique, alors que nous sortons d'une série de conférences sur l'économique. En fait, il est difficile de séparer les deux, notamment dans notre monde actuel. Et il semblerait bien, si j'ai bien retenu les leçons de la première série, qu'actuellement, il y a un pouvoir avant tout économique, en amont avec les producteurs, en aval avec les individus, qui sont très individualistes et donc qui n'ont de ce fait pas grand pouvoir. Et il y a une concentration des pouvoirs, mais qui se fait, semble-t-il, entre les deux, entre l'amont et l'aval, par la puissance des moyens d'échange, notamment d'information. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une constante dans tout ça, c'est-à-dire à la fois pour ce qui est du politique et pour ce qui est de l'économique, finalement, ce qu'on doit chercher, semble-t-il, avec, en suivant Montesquieu d'ailleurs, c'est l'équilibre des pouvoirs, quels qu'ils soient économiques ou politiques, parce que s'il y a trop de concentration, c'est très mauvais, et s'il y a trop de dilution, si on est trop individualiste, finalement, on n'a aucun pouvoir. Alors finalement, on est toujours entre les deux, entre le fait d'appartenir à un groupe puissant, mais le fait aussi de garder ses intérêts purement individuels. Est-ce que ce n'est pas là la constante du pouvoir ?
Écoutez, j'ai du mal à reconnaître dans ce que vous dites exactement ce que vous appelez pouvoir, parce que si défendre ses intérêts pour l'individu, c'est un des modes du pouvoir, j'avoue que je ne vous suis plus du tout. Je vous suivais au départ quand vous reliez l'économique et le politique, mais là, je ne comprends plus ce que vous... Quand vous parlez de séparation des pouvoirs, je comprends bien que ça n'est pas au sens de Montesquieu des trois pouvoirs, mais au sens où, puisque notre société comprend une diversité de pouvoirs, l'essentiel est que l'un ne... disons qu'il ne soit pas condensé. Mais j'essayais de me délivrer un peu de cette représentation d'une prolifération de foyers de pouvoir qui trouvent leur aliment dans la propriété, dans le capital, dans la technique, etc. Phénomène que je ne nie pas un instant, mais j'essayais de dégager l'idée que cette société s'ordonne primordialement en fonction de l'impossibilité d'une captation du pouvoir par, disons, un groupe, quel qu'il soit, un parti, un homme, un parti, par exemple, et que c'est du fait que le pouvoir était travaillé par la division. Ça, il me semble que cette expression est très claire. Il est travaillé par la division, puisque il est temporaire, il est dû à une majorité, il faut qu'il entretienne au cours de son exercice autant que possible la faveur de l'opinion, tout en essayant de réaliser quelques-uns de ses desseins. Dans cette situation où le pouvoir est, comme je dirais, travaillé par la division, nous avons affaire à une société qui, quoi qu'on en dise, quelques procès qu'on puisse faire, disons, de la classe politique d'une part, ou d'autre part, de la technocratie, ou tout ce que vous voulez, nous avons affaire à une société qui continue d'être une société où la vie sociale est en excès, où le possible est ouvert. La vie sociale est en excès sur, disons, je disais, l'organisation de fait, les rapports de force qui s'instituent, le marché qui devient si important, la propriété, etc. C'est à ça que j'essaye de toucher. Donc c'est une problématique politique qui ne cherche pas du tout à rompre avec une analyse économique, n'est-ce pas, l'analyse des rapports de propriété et des rapports, des rapports de production reste essentiel, mais je cherche à toucher à autre chose. Voilà.
Madame, une question là-haut.
Oui.
Là-haut. Voilà.
Si je comprends bien, en fait, vous mettez en évidence dans les sociétés démocratiques le fait que les citoyens ont du mal à exercer la prise de responsabilité pour eux-mêmes et ils la remettent dans un lieu d'exercice du pouvoir vide, symbolique, sur lequel ils se reposent pour, en retour, prendre des décisions dont ils ne voudraient pas prendre la responsabilité à titre individuel. Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais vous me le direz, mais dans cette analyse, comment situez-vous la démarche d'un représentant du peuple, député par exemple, qui, en principe, investit de la capacité de représentation de ses électeurs, quand il veut faire une démarche influente sur les décisions de l'ordre du politique, demande à ses concitoyens de se constituer en manifestation pour soutenir sa demande.
Oui. Sur un point, je crois que je ne me suis pas fait comprendre. Parce que quand vous dites les citoyens, hein, au départ, les citoyens délèguent leurs responsabilités. Bon, ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ça a l'air de. Dans la manière dont vous présentez les choses, mais fort utile, parce que je me permets de préciser, je l'ai dit, on n'a pas au départ les individus, et puis le pouvoir, et comment ces individus vont-ils se rapporter à ce pouvoir qu'ils délèguent ? J'essaye de montrer que le pouvoir est quelque chose de constitutif de la société, de quelque manière qu'elle soit organisée. Donc, il est premier. Donc, les citoyens ne lui remettent pas des responsabilités qu'ils seraient, disons, un à un, capables de combiner par association. Ça, c'est une... Mais ce n'est pas qu'ils en soient incapables, comme si les malheureux, disons, ils n'en avaient pas le courage ou ils n'en avaient pas la force. C'est qu'une société n'est pas composée au départ, décomposable en individus citoyens.
Une question là. Rapide.
C'est moi. Oui, bonsoir monsieur. Je suis là devant vous. Bon, d'après ce que j'ai compris, le pouvoir est différent de la loi. Même s'il permet à faire la loi, à établir la loi. Donc il est aussi il est indépendant de l'irrespect ou du respect de la loi, le pouvoir. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi il y a une loi sur les immunités pour nos représentants, pour les représentants du pouvoir ? Il y a une loi d'immunité. Hein, ils en usent et ils en abusent, à l'extrême parfois. Et je voulais savoir si c'est pas ça qui définit une certaine forme de tyrannie de l'immunité parlementaire ou autre. Merci.
Vous me ramenez au plus concret en me demandant si ceux qui participent de l'exercice du pouvoir ne doivent pas être assujettis aux lois de la même manière que, disons, tout autre, et dans la mesure où la loi, disons, est transcendante par rapport au pouvoir. C'est ça que vous me demandez. Je pense que c'est une question dont on ne peut que comment dirais-je Je pense qu'il n'y a aucune raison, effectivement, que les représentants du peuple ou que les gens qui ont une charge publique bénéficient d'une immunité, ce qui n'est d'ailleurs que le cas dans, disons, qu'un cas très particulier. Donc, je ne vois pas très bien où vous voulez me mener en somme.
Bon. Une dernière question, monsieur, là. Juste une dernière, allez-y.
Si j'ai pas mal compris, par la fin de votre propos...
Parlez mieux dans le micro.
Oui, si j'ai pas mal compris, à la fin de votre propos, vous opposiez, d'une part, l'actualité, l'expansion du marché,
oui,
comme un risque pour notre forme de société que vous décriviez, oui, par ailleurs, démocratique. Je vous demande, oui, une petite précision, tout en vous posant une question un peu provocative ou bête, tout simplement. Est-ce que ce marché en expansion entretient un rapport de pouvoir, pour jouer avec le mot, avec cette forme de société qu'on hérite de la révolution démocratique? Est-ce que les rapports sont des rapports de pouvoir entre ce marché, tel que vous le décrivez comme risque, par rapport à cette organisation sociale qui est la nôtre?
Oui, je comprends très bien votre question, mais je ne m'exprimerai pas en ces termes, parce que on ne peut pas dire que le marché s'incarne dans un organe, dans un appareil qui puisse rivaliser avec ce qu'est le pouvoir politique. Mais je vous suis reconnaissant d'attirer l'attention sur ces derniers mots. Je crois que j'ai respecté les 50 minutes. Je me suis rendu compte des raccourcis, que je faisais, pour une part inadmissible. Et ce que je disais en une seule phrase à la fin, c'est qu'il y a effectivement, je ne suis pas du tout anti-européen, et d'autre part, je ne nie pas non plus, la réalité d'un marché qui s'étend à l'échelle de la planète. Mais c'est vrai que là où il n'y a plus une société dans des limites qui permettent ce rapport si étrange que j'essayais d'esquisser entre un pouvoir qui est sous l'effet des conflits, mais en même temps qui, en quelque sorte, donne une lisibilité au social. S'il subit une érosion du fait que de plus en plus les décisions économiques sont prises à une échelle qui met en échec le pouvoir, le pouvoir local, le pouvoir national ou le pouvoir fédéral à la rigueur, alors je pense qu'il y a effectivement danger. Ce qu'il y a, c'est que pour ma part, je ne cède pas à la fiction d'un processus en soi du marché, rendent caduc le pouvoir d'État. Je crois qu'il y a une grande part d'utopie, pour moi c'est une utopie négative d'ailleurs, dans cette idée, mais néanmoins, encore une fois, ça n'est que dans des limites qu'il peut y avoir une démocratie opérante.
Claude Réfort, je vous remercie.